Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Thomas Rozek. Avant notre épisode du jour, et pour faire suite à celui d'hier consacré au Venezuela, je voulais vous inviter à redécouvrir un entretien que nous avions publié l'année dernière. Mon camarade David Carzon avait rencontré Louis Beauchemin, un entrepreneur québécois qui a la petite particularité d'avoir voulu installer son business à Caracas, au Venezuela donc, et s'est retrouvé confronté aux réalités de l'économie sous Hugo Chavez, et à sa campagne aussi permanente de nationalisation. Je vous propose donc de l'entendre de nouveau, et je vous dis à ce soir pour un nouvel épisode.
Mon premier souvenir, c'est la première fois que j'y étais. Et là, le taxi pour monter à la ville, parce qu'il faut savoir, l'aéroport est au niveau de la mer et la ville de Caracas est environ à 1000 mètres d'altitude. Et de voir, premièrement, toute la pauvreté qu'il y a le long de la route, un peu partout. Et de voir aussi le bordel, qu'il n'y a pas de signalisation, qu'on peut rouler sur l'accotement, qu'il y a des rues barrées, qu'on fait des détours, qu'il y a des bouchons incroyables, que les gens klaxonnent. Et l'humidité aussi, hein, c'est très, très humide au Venezuela, à Caracas en particulier.
Nous allons faire un voyage. Un voyage dans le Venezuela de 2008, celui d'Hugo Chavez. Notre guide sera Louis Beauchemin. Ce Québécois va nous faire vivre de l'intérieur des événements qui, d'habitude, restent secrets. Que se passe-t-il quand vous êtes à la tête d'une entreprise, une cimenterie en l'occurrence, qui se retrouve nationalisée du jour au lendemain par le président vénézuélien en personne? Attention, pas d'idéologie derrière cette histoire. Il ne s'agit pas de faire le procès du chavisme. Coucou Mélenchon. L'histoire de Louis Beauchemin nous fait avant tout découvrir des mécanismes de négociation qui se passent habituellement loin des regards, des micros, des caméras. Et ce récit nous transporte des bureaux ministériels de Caracas à ceux plus ouatés d'avocats d'affaires en haut de buildings américains. Et nous fait mieux comprendre ce qu'est devenu ce pays aujourd'hui rattrapé par la crise économique. Nous avons interrogé Louis Beauchemin depuis Montréal, où il habite désormais. Devenu consultant pour des PME et des start-up, cet homme simple, franc, qui a passé sa vie à gérer des usines tout en respectant les êtres humains qui les font tourner, garde un souvenir très précis de cette aventure qui a pris plusieurs années de sa vie et qui le poursuit encore. Normal, personne n'est totalement préparé à gérer ce genre de situation. Juste pour bien comprendre, Holcim était à l'époque une cimenterie suisse qui a depuis fusionné avec le français Lafarge. Mais à l'époque, les deux entités étaient bien concurrentes. Écoutons donc l'histoire de Louis Beauchemin et commençons par les raisons de son arrivée au Venezuela à la tête d'une cimenterie de 850 employés dans un pays alors en plein boom économique grâce au pétrole.
Je venais prendre le poste de CEO pour Holcim Venezuela. Ça faisait déjà quelques années que j'étais chez Holcim. J'avais passé une quinzaine d'années avant chez Lafarge, le compétiteur. Et là, j'étais chez Holcim. J'avais eu différents postes aux États-Unis. Et on avait besoin de quelqu'un dans le poste de CEO pour faire continuer le développement. À ce moment-là, le pays, d'une façon du côté économique, vu du niveau mondial, les problèmes commençaient à être perçus un petit peu, mais jamais au même niveau qu'aujourd'hui. Il faut savoir qu'en 2000, je crois que c'est au début 2007, avant mon arrivée, ou fin 2006, je ne me souviens pas, Chavez avait déjà menacé publiquement les cimenteries de les nationaliser s'ils répondaient pas à la demande du ciment ou s'ils augmentaient les prix ou je sais pas quoi, dans une mesure un peu populiste. Et à part ça, mais on savait, venant du terrain, que les ventes étaient solides et il y avait un gros besoin de construction parce qu'il y avait quand même des l'économie qui allait assez bien. Et il faut savoir que l'économie du Venezuela, à la base, est basée sur le pétrole. Mais avec ça, ça entraîne le reste de la construction, les commerces, les centres commerciaux, les habitations, les blocs appartements, les routes, les ponts, les viaducs, les stations de train, d'autres industries, etc., etc.
Prenons un instant pour nous replonger dans le Venezuela de l'époque. Hugo Chavez a instauré son socialisme du XXIe siècle à base, entre autres, de démocratie participative et de nationalisation. Il est également omniprésent dans les médias locaux. Et c'est important pour la suite de notre histoire.
Monsieur Chavez passe à la télévision en direct tous les jours. Il fait son Allo Presidente le dimanche où il parle pendant facilement de 5 à 8 heures en continu. Il se fait suivre. Il est encore souriant. Il est assez fort dans les sondages. Et il est très bon. Une de ses grandes forces dans sa communication, c'est qu'il parle aux gens du peuple dans leur langue et il leur dit ce qu'ils veulent entendre. Et ça, j'avoue, parce que moi, évidemment, il y avait souvent des moments, entre autres les week-ends, où mon épouse n'était pas là, j'étais seul. Alors, tu peux faire tous les postes, toutes les chaînes à la télé, mais c'est Chavez sur toutes les postes. Hein. Alors, des fois, à rien faire, pendant 2-3 heures, je l'écoutais. Et c'est quand même fascinant. Le gars, je pense pas qu'aux États-Unis, au Canada ou en France, il serait vu comme un grand orateur. Mais pour son auditoire, il passait extrêmement bien quand même.
Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres.
Les gens l'écoutaient et l'applaudissaient. Il y avait vraiment un charisme.
Le témoignage de Louis Beauchemin est précieux, car il a pu voir le bolivarisme à l'œuvre. Avec le recul et avec son regard de chef d'entreprise, comment a-t-il perçu la politique mise en place? Comment cela fonctionne de l'intérieur? Et surtout, a-t-il vu un plan global et organisé?
J'ai fini par avoir beaucoup de contacts avec les gens du gouvernement à très haut niveau. Ben, en fait, c'est qu'il n'y en a pas de plan. C'est tout à fait improvisé, ce truc-là. Et c'est difficile à imaginer pour des gens qui sont plutôt cartésiens ou quoi que ce soit, mais c'est tout à fait improvisé. La façon que ça fonctionne, c'est que les gens vont attendre des choses du gouvernement et ce qu'on leur a promis, dans le fond, c'est que le pétrole, c'est la richesse. Alors, le pétrole, contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas opéré par la compagnie du Venezuela. Il est supervisé par le fameux PDVSA, le Petróleo de Venezuela S.A. Mais c'est tout opéré par des sous-traitants, normalement des Américains, des Baker Hughes, des Schlumberger, qui viennent pour des stages de 3 semaines, 1 mois, et qui vont, eux, dans la jungle, faire le forage, faire l'extraction, faire le pompage, faire la maintenance des équipements de pétrole. Et évidemment, les profits, les gros profits reviennent au gouvernement du Venezuela, et ces profits-là, ensuite, sont redistribués aux gens, au bon vouloir, évidemment, du gouvernement, mais avec des visées totalement électoralistes. Alors, on va carrément orienter les investissements vers des zones très pauvres où les gens ont beaucoup à gagner à recevoir une maison gratuite, une école ou une chose comme ça. Mais en même temps, ce qui fait notre ami Chavez, c'est que de temps en temps, il nationalise des industries, des petites, des grosses, des moyennes. Je crois qu'en tout, il y en a nationalisé au-dessus de 250. Quand il sort une nouvelle ou quand on voit qu'on peut justifier une action envers une société ou que la société a fait quelque chose, soit augmenter ses prix ou soit, je vous donne un exemple, un producteur de poulet qui vend une partie de sa production à l'extérieur du Venezuela dans sa stratégie de diversification ou de croissance et qui prend une partie des poulets équivalent en Colombie ou au Brésil, quand on sait qu'il manque parfois des poulets dans les épiceries, bien à ce moment-là, ça sort dans les journaux qu'il n'y a pas eu de poulet dans, on va dire, le Carrefour ou le telle épicerie de Caracas ou d'une autre ville. Et là, Chavez arrive quelques jours après. Quand il voit ça, on les nationalise. Et là, les gens sont tout contents. On va avoir plus à manger. Hugo Chavez travaille pour nous. Et voilà, et tout le monde est content. Et le but, c'est que les gens vont voter pour lui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les gens votaient vraiment pour lui.
Et voilà qu'un jour de 2008, Hugo Chavez annonce, à la surprise générale, la nationalisation des cimenteries étrangères installées dans le pays. La surprise, ce n'est pas tant le fait que le Venezuela nationalise tout un pan d'une industrie. Il l'avait déjà fait. Là, c'est plutôt la manière. Et le fait que personne, à part Chavez, ne semblait être au courant.
Lui a fait l'annonce. De mémoire, c'est un jeudi soir, ou je crois que c'est le 4 avril 2008. Il était, comme il fait normalement, il était en public, en train de faire des déclarations. C'était, je crois, une remise de diplôme dans une école secondaire ou un truc comme ça. Puis là, après avoir remis les diplômes, il fait un speech d'environ, je sais pas, 2 heures de temps. Sur le vidéo, on peut voir la surprise dans les yeux de certains des ministres, dont certains ministres importants, qui ont l'air de dire... Mais c'est quoi ce truc-là? On n'a jamais décidé ça. Il a improvisé ça. Il a sorti un lapin de son chapeau à 11h30 le soir parce que pourquoi pas. Puis c'est comme ça. Et moi, ce soir-là, à la maison, avec mon épouse, on avait reçu des amis à souper. Puis c'était passé aux nouvelles, mais on regardait pas la télé. Alors on s'est couché, mais je me suis fait réveiller le lendemain matin vers 4h30 du matin par mon patron à Zurich qui voulait savoir qu'est-ce que c'était cette histoire-là et qui voulait savoir qu'est-ce qu'avait dit Chavez, qu'est-ce qu'elle allait devenir. Et tout de suite après, je suis allé au bureau, j'en savais pas plus, j'ai appelé les gens et on m'a confirmé, puis on a réussi à trouver l'extrait radio, audio et tout.
Vamos a proceder a nacionalizar y recuperar las industrias del cemento y seguir desarrollando el país.
Ahora el cemento es del pueblo.
El gobierno bolivariano de Venezuela recuperó nuestra industria cementera de las manos de la transnacional Cemex, restituyendo así la soberanía nacional en el sector. Con el rescate del 90% de las acciones, el Estado toma el control del cemento, garantizando desarrollos de infraestructura y el bienestar ambiental y social del pueblo venezolano.
Mais surtout, au bureau, on a reçu un appel dans la matinée du vice-président du Venezuela qui nous a demandé à moi et aux deux autres CEO des deux autres cimenteries étrangères d'aller à son bureau à 13h, ce qu'on a fait. Et là, il nous a carrément... Il y avait un petit papier tout petit avec ses points. Voici, je vous annonce qu'on met en branle le processus pour vous nationaliser. Et là, évidemment, on avait plein de questions. Pourquoi? C'est pas sérieux. Comment allez-vous décider? Il dit, on va vous payer, etc. C'est tout. Ça a duré 10 minutes, puis il pouvait pas répondre à nos questions parce que lui, il avait carrément reçu l'ordre de Chavez de nous dire ça, puis... Et là, c'est parti. C'était impossible de dire non, de refuser. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les gouvernements ont le droit de nationaliser quoi que ce soit ou qui que ce soit sur leur territoire. Si vous avez une super belle maison champêtre au centre de la France que vous a légué votre grand-père ou je sais pas quoi, et si demain matin, le gouvernement français veut y faire passer une autoroute, vous n'avez pas le droit... Vous pouvez manifester, vous pouvez... Mais à la fin, le gouvernement a toujours le droit. Mais en échange, le gouvernement doit vous payer, doit faire deux choses. Vous payez la vraie valeur, donc la valeur marchande. Et là, il peut y avoir beaucoup de discussions parce que pour vous, cette maison-là est ancestrale, elle vaut un montant faramineux. Eux vont dire c'est un lopin de terre en friche, donc c'est difficile de s'entendre. Et l'autre chose, ils doivent vous payer rapidement. Ils peuvent pas vous expulser demain matin et vous payer dans 10 ans. Ils doivent vous payer dans des délais raisonnables, etc., pour que vous puissiez aller vous établir ailleurs. Alors ici, et d'ailleurs, le gouvernement du Venezuela a toujours reconnu qu'il nous avait nationalisés. Et la discussion, c'est toujours sur le montant d'argent. Essentiellement, c'est ça. Évidemment, on sait, c'est comme dans n'importe quelle négociation, parce que c'est pas comme une, on va dire, la négociation de l'achat ou de la vente d'une maison. si vous, vous voulez vendre votre maison et moi, je veux l'acheter, vous êtes vendeur, moi, je suis acheteur, on est déjà dans le bon contexte et on va essayer de se rencontrer quelque part dans le milieu. Mais là, nous, on n'était pas vraiment vendeurs et on nous dit, on va vous acheter. Alors évidemment, la marge de négociation n'est pas aussi bonne. Et comme eux, à la fin, ben, à la fin, ils ont l'armée, on savait d'avance qu'on n'irait pas chercher le prix qu'on voulait, effectivement.
Ensuite, tout est question de rapport de force. Et celui qui a l'armée de son côté a un certain avantage. En l'espèce, ce n'est pas le gouvernement qui négocie directement, mais la PDVSA, la Société Pétrolière Vénézuélienne. Alors, côté Holcim, comment on s'organise avec une marge de manœuvre aussi faible et quand on n'est pas préparé? Seul point d'appui, les traités internationaux que tous doivent respecter.
Nous, on rencontrait les gens de PDVSA dans les bureaux de la Société Pétrolière du Venezuela à Caracas. Et c'est avec eux qu'on négociait. Et eux, il faut dire, avaient déjà négocié l'année précédente des nationalisations avec les grandes sociétés pétrolières. Il y en a qui avaient accepté, il y en a qui n'avaient pas accepté. Parce que eux, c'était des nationalisations un peu différentes où les sociétés pouvaient garder un certain pourcentage ou quoi que ce soit. Et il y avait déjà un canevas de comment on négocie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est eux, on est au Venezuela, c'est eux qui déclenchent la manœuvre, c'est eux qui ont l'argent, mais c'est eux aussi qui ont l'armée et qui peuvent nous expulser manu militari de nos usines. Ben, on suit leur scénario, même si nous, ça fait pas notre affaire. C'est eux qui décident à quelle fréquence on se rencontre, combien de temps dure chaque séance, qui parle, qui parle pas, et etc. Au début, nous, on court un peu dans tous les sens, mais on s'est vite adjoint les services d'un bureau d'avocats international qui avait déjà travaillé, non pas au Venezuela, mais ailleurs. Ça, c'est une chose. En fait, il y en a beaucoup plus qu'on pensait qui travaillent là-dedans. Parce qu'il faut savoir que c'est passé d'autres choses similaires en Afrique puis dans d'autres pays du monde. Mais évidemment, c'est pas dans les pays développés. C'est souvent les pays en voie de développement. Et eux nous ont effectivement donné les conseils. Et on devait, nous... Puis à la fin, il faut bien comprendre que le CEO du Venezuela, c'est pas moi qui va prendre toutes les décisions. C'est le conseil d'administration. Et donc, à intervalles réguliers, on donnait des informations sur l'avancement des négociations, qu'est-ce qu'on voyait comme scénario, on faisait des recommandations. Mais faut bien comprendre qu'au début, on naviguait vraiment à l'aveugle. C'est juste avec le temps et à force de plusieurs rencontres qu'on a commencé à avoir une stratégie un peu plus claire. À la fin, il y a essentiellement deux options. Soit on s'entend, ou soit on va à l'arbitrage international. Parce qu'il faut savoir, c'est que le Venezuela, je crois que c'est dans les années 60, avait signé des traités internationaux avec plusieurs grands pays, entre autres des pays européens, pour protéger les investissements soit étrangers au Venezuela et l'inverse. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'investissements vénézuéliens en France, mais ces lois-là sont réciproques et fixent carrément, c'est des traités internationaux et un pays ne peut pas se sortir de ces traités-là du jour au lendemain en envoyant un petit texto à quelqu'un, on n'observe plus ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que s'ils ne reconnaissent pas après ça leurs engagements, ils vont vraiment avoir des problèmes.
Une fois l'annonce passée, quelle était l'ambiance dans l'entreprise? On pourrait croire que ce genre d'annonce était plutôt bien perçu par les employés vénézuéliens de la cimenterie. Ce n'est pas tout à fait le cas. Ensuite, il faut gérer le temps qui passe sans avoir beaucoup d'infos. Et puis, à un moment, les négociations s'enclenchent réellement. Enfin, négociation est un bien grand mot.
Il y avait eu un référendum plusieurs années avant, au début des années 2000, quand Chavez n'avait pas encore bien établi son pouvoir, à savoir si Chavez devait continuer comme président ou pas. Et ce qu'on a su, c'est que ce référendum-là, les gens, il y avait eu des pétitions qui avaient été signées pour demander le référendum, et les gens qui avaient signé la pétition, qui étaient évidemment contre Chavez, ces listes-là ont été un jour dévoilées au public. Donc, c'était bien connu qui était contre Chavez et qui était... Évidemment, les gens qui travaillent des médecins, des bureaux d'avocats, des professionnels qui travaillaient dans les grosses entreprises là-bas. Il n'y avait pas juste le ciment, il y avait plein d'autres entreprises. Il y avait des entreprises d'acier dans l'alimentation, dans la bière, dans les centres commerciaux, ce qu'on veut. C'était un pays normal. Ces gens-là, normalement, ne votaient pas pour Chavez. Et là, ils disaient, bien là, et les gens avaient vite compris que quand le Venezuela nationalisait des sociétés, les gens, souvent, qui avaient été identifiés dans la liste des ressources humaines pour déjà avoir signé la pétition contre Chavez il y a quelques années, étaient mis dehors de la société. Et essentiellement, comme le pouvoir du gouvernement a toutes les années avec des multiples nationalisations augmentait, c'était rendu, je me souviens plus, mais c'était comme 20 ou 30 des travailleurs au Venezuela finalement travaillaient soit pour le gouvernement vénézuélien ou pour des sociétés qui appartenaient maintenant au gouvernement vénézuélien. Ils disaient, bien après ça, tu ne peux plus te retrouver d'ouvrage. Après ça, tu es sur le chômage technique. Pourtant, ça a fait une grande crise. Il y a des gens qui pleuraient littéralement dans le bureau, qui venaient me voir, mais surtout qui allaient voir notre directrice des ressources humaines. Et le problème, c'était l'incertitude pour nous, parce que moi, je faisais beaucoup de réunions avec les employés pour leur expliquer où est-ce qu'on était rendu. Mais la plupart du temps, mes réunions, c'est pour leur dire, ben, on a appelé le gouvernement ou on leur a envoyé une lettre, on attend une réponse, ils nous ont pas répondu depuis 3 semaines, on sait pas qu'est-ce qui va arriver. Et les gens étaient vraiment inquiets. Et autant les gens à Zurich, les propriétaires de la boîte, ne savaient pas où est-ce que ça allait finir, mais à l'interne non plus. Puis, si on rencontrait les gens du gouvernement, ils nous ont souvent dit, ben, en ce moment, là, on sait pas, on attend des directions, quoi. Suite à l'annonce, il s'est passé à peu près rien. Et là, au mois de juin, la date n'est pas importante, mais je crois que c'est environ 16 juin 2008, le gouvernement vénézuélien a voté une loi après l'annonce de Chavez pour, si on veut, valider le discours de Chavez, a voté une loi pour nationaliser les 3 grandes cimenteries. Et de là, à partir du mois de juin jusqu'au mois d'août, là, il y a eu des réunions à tous les 10 jours, à peu près. Et la façon dont il fonctionnait, c'est une semaine, et les réunions durent 45 minutes, 30 minutes, c'est pas très long. Eux parlent, et toi, tu as juste le droit de prendre des notes. La semaine suivante, toi, tu parles, et eux prennent des notes. Mais c'est pas une vraie négociation où toi, tu dis 50, eux, ils disent 70. Bon, ben là, peut-être 51, peut-être 69. Non, c'est... Et ça entourait pas juste le chiffre, la valorisation, mais les négociations étaient quand même faites sur des volumes, des profits, des prix. Les gens de PDVSA avaient quand même construit un chiffrier Excel avec où ils pouvaient calculer une valeur présente nette des profits futurs. Mais essentiellement, je veux dire, pour vous donner une idée, on s'est entendu à la fin sur un montant de 650 millions. Leur première offre, c'était 100 millions. C'est vraiment insultant. Et il savait très bien. Il te regarde dans les yeux sans broncher, mais il sait très bien qu'il est là juste pour t'écœurer. Là, c'est pour te faire réagir. Tu as aussi des fois le droit de demander un éclaircissement ou pour être sûr que tu as bien compris. Mais essentiellement, eux te disent, bon, voici comment ça va se dérouler. Voici les règles. Tu sais, puis à la fin, il faut que tu comprennes. Là, il y a des gardes armés à l'extérieur du bureau. Tu peux pas faire de conneries, là. C'est une image, mais pas très loin. Eux, ils négocient avec le gun sur la table, là. Puis toi, t'es là, t'as passé le détecteur de métal, t'as rien, là. Je veux dire, c'est comme ça qu'ils négocient, là.
La difficulté dans ce genre de situation, c'est de connaître les règles du jeu, qui sont forcément un peu faussées. On a bien compris qu'il était impossible de revenir sur la décision de Chavez, mais que le Venezuela a toujours reconnu qu'il devait payer. Alors le seul objectif pour une entreprise dans cette situation, c'est de tirer le meilleur prix de cette vente forcée.
Ben à la fin, ce qui est arrivé, c'est qu'on leur a... C'est quand même une façon logique et intelligente. On leur a montré nos profits passés, mais au début, ils font juste insulter. Puis nous, on leur donne les perspectives, on leur montre comment les ventes étaient en augmentation, comment les coûts étaient sous contrôle, etc., etc., le marché de la construction, les habitations. Vous savez, à la fin, c'est un jeu que eux jouent et aussi ils jouent beaucoup avec le temps. à un moment donné, ils nous ont annoncé qu'on allait signer, qu'on devait signer le 18 août 2008, parce que c'était la date fatidique, parce que la loi disait qu'il fallait s'entendre à 2 mois. Et je ne sais pas ce qui est arrivé, par exemple, avec les gens de CEMEX, mais eux n'ont pas réussi à s'entendre ou ont pas, ils ont eu un problème de communication ou je sais pas quoi. Et eux n'ont pas signé et l'armée vénézuélienne est rentrée avec des politiciens le soir du 18 août et ont pris de force les bureaux et les cimenteries de CEMEX. Alors nous, il y avait aussi la contrainte de temps et à la fin, on a réussi à les faire monter un peu. Bien, après, le problème, c'est qu'il se passe que là, c'est le silence radio, c'est pas clair, mais il nous avait expliqué que il allait finalement prendre possession de la compagnie. Mais on ne savait pas comment. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que le lendemain, ils nous ont envoyé 5 personnes qui étaient des amis de politiciens, de hauts placés du gouvernement, entre autres celui qui devait prendre mon poste et qui a pris mon poste. Je crois que c'était soit le beau-frère ou le père du mari de la fille du vice-président du Venezuela, un truc comme ça, et avec de leurs amis qui arrivent, qui frappent la porte, puis qui disent, ben nous, là, maintenant, on est le nouveau management. Là, nous, on a résisté carrément, parce que ça, c'était pas prévu comment ça allait faire. Nous, on a résisté pendant plusieurs semaines. On a été très durs. Je sais pas si on a bien fait. Et à la fin, ils sont arrivés avec comme un ordre du gouvernement ou un ordre de la cour. Puis au mois d'octobre, ils nous ont carrément demandé de partir, de démissionner et de sortir du bureau et de jamais remettre les pieds là. Et là, on a eu un silence radio pendant presque un an.
Retour à l'usine. Si les nouvelles sont rassurantes pour la sécurité de l'emploi des ouvriers vénézuéliens de la cimenterie, Louis Beauchemin, lui, est donc mis sur la touche. Et ses remplaçants ne semblent pas forcément au niveau.
Publiquement, là, c'était très mal vu, la nationalisation des cimenteries. Le gouvernement de Chavez avait fait voter une loi comme quoi les gens avaient un emploi garanti et ne pouvaient pas être mis dehors dans toutes les cimenteries. Alors ça, ça a rassuré un peu les gens. Mais les gens voyaient bien que les patrons ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, comment opérer la boîte. Alors, il y a des gens, quelques personnes qui ont réussi à trouver du travail ailleurs. Mais sinon, il y en a beaucoup qui sont restés. Il y en a beaucoup qui sont restés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement vénézuélien, dans le contrat que nous, on avait signé, en tout cas, je ne sais pas pour les deux autres, mais on avait eu une entente qu'on gardait un petit pourcentage de la boîte et à cause de notre savoir-faire, ils réalisaient qu'ils avaient besoin de l'aide de Holcim pour continuer à faire de la maintenance, de la planification stratégique, l'ouverture de nouvelles de fronts de taille dans les carrières, des choses comme ça. Alors, on s'était monté un bureau, puis on attendait un peu leur coup de fil pour ces contrats-là. Donc, on pouvait se voir en dehors des heures de bureau, le week-end, le soir, avec les gens qui étaient soit le directeur des cimenteries ou le directeur des ventes ou des choses comme ça. Et on avait encore un peu de l'information de comment ça fonctionnait. Mais il faut savoir que il n'y avait pas vraiment un plan pour faire fonctionner ça. Les gens qui avaient mis là n'avaient pas les capacités ou les connaissances pour faire rouler des grosses boîtes comme ça, même s'ils étaient pleins de bonnes intentions. Et ça a commencé à décliner tranquillement. Mais ça a pris un certain temps parce que nous, on l'avait laissé en très bon état et on avait des bonnes équipes. Puis les cimenteries étaient en bon ordre de marche et tout. Mais les dernières nouvelles que j'ai eues, ça fait déjà quelques années, notre cimenterie fonctionnait maintenant juste à 50 % de sa production et je crois que les deux autres, c'était encore pire.
Débarqué, Louis Beauchemin continue les négociations à distance, mais rien n'avance concrètement. La situation pourrit sur place. Là, une seule option, faire appel à l'arbitrage international, un monde méconnu pour le commun des mortels comme vous et moi. Et une solution à double tranchant pour ceux qui décident de jouer leur va-tout devant cette juridiction un peu spéciale.
Ben moi, à ce moment-là, je vivais aux États-Unis. Alors, je suis rentré aux États-Unis. J'ai déménagé. Et je revenais au Venezuela environ une fois par année ou plus dans l'espoir de négocier et pour m'occuper de la boîte, de la petite boîte avec les 3-4 employés qu'on avait construite pour donner du service. être prêt, avoir des contacts. Et côté aussi, on avait des avocats, oui, à New York, mais on avait aussi des avocats locaux à Caracas. Il y a quand même eu des fois des petites réunions ou un mail ou quelque chose du gouvernement. Alors, il y avait quand même des choses à s'occuper, mais réellement, les négociations ont pas beaucoup avancé. Et finalement, ce qu'on a décidé, fin 2009, c'est comme ça avançait pas, le management de Holcim à Zurich, c'était pas la voie qu'ils voulaient prendre au début, mais comme il y a rien qui avançait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très fréquent, ça, chez, au gouvernement vénézuélien. Quand on a un problème, on répond pas au téléphone. Alors, même leurs avocats, eux, qui eux aussi étaient à New York, nous disaient, on a reçu l'ordre de pas répondre à aucun mail, on travaille plus sur votre cas, on n'a pas d'informations. Alors, je sais pas si c'était vrai qu'ils travaillaient plus sur le cas, mais ils transmettaient le message qu'on peut rien faire. Et on travaillait dans le vide. Alors, à ce moment-là, comme on a vu qu'il n'y a rien qui avançait, on a décidé de mettre en place la voie de l'arbitrage international. Parce que c'est un peu plus agressif, c'est un peu plus côté confrontation. Et ça peut aussi très bien sortir, mais être très décevant aussi, parce qu'il y a des histoires en arbitrage international avec d'autres sociétés qui s'en sont très mal sorties parce que les juges ou les arbitres ont décidé en faveur, disons, plus du pays, que le prix demandé était beaucoup trop haut. Mais comme ça avançait pas, on a décidé de... Et ça prenait beaucoup de temps, beaucoup de dossiers, beaucoup de papiers. J'ai passé énormément de temps avec les avocats à monter le dossier de l'arbitrage international. Ce sont des procédures très bien établies. Au début, nous, on dépose, on appelle ça un mémoire. Alors, la société dépose son mémoire. 2-3 mois après, le gouvernement peut répondre. Après ça, nous, on peut faire notre réponse à leur réponse. Et à la fin, c'est le gouvernement qui a le dernier mot. Puis après ça, 2-3 mois après, l'arbitrage tel quel commence. Il y a toute une procédure de choisir les arbitres, etc., etc. Et ça, on a enclenché le processus carrément. Ça, c'est ça qu'on a fait.
Alors voilà, avec l'arbitrage international, on sort de Caracas pour rentrer dans les cabinets feutrés d'avocats d'affaires aux États-Unis et en France. Avec une procédure bien particulière où il faut déjà commencer par se mettre d'accord sur le nom d'un arbitre et un calendrier. C'est là que tout s'est joué pour Louis Beauchemin. Écoutez comment.
Nous, on avait nos avocats de New York. Leurs avocats de New York aussi sont là. Et le processus d'arbitrage international, en fait, est sous l'égide de la Banque mondiale qui est basée à Washington. C'est pas toujours facile pour les gens de toujours se rendre à Washington et tout et tout. Donc, le bureau aussi des bureaux, l'arbitrage, le système d'arbitrage a aussi des bureaux ailleurs dans le monde. Et nous, on s'était rencontrés à Paris le 26 février 2010, je m'en souviens très bien. Et moi, j'avais pas le droit de parole. Comme il y avait aussi un représentant du gouvernement vénézuélien qui était là, lui non plus n'avait pas le droit de parole. Et là, on avait réussi à choisir nos arbitres. Alors, les arbitres, la façon dont ça fonctionne, la compagnie, on choisit un... Il y a un pool, hein, il y a une liste. Chaque pays qui est membre de cette organisation-là a à peu près 2 noms d'avocats, normalement, qui sont disponibles pour être arbitres. La France, l'Angleterre, la Suisse, les États-Unis, l'Espagne, tout ce qu'on veut. Alors, nous, on choisit quelqu'un. Évidemment, on n'a pas le droit de prendre quelqu'un qui est suisse, parce que ça serait... Alors, nous, on a choisi un Américain qui, clairement, ce serait un arbitre qui, dans le passé, quand a fait des décisions, est allé plutôt du côté de la compagnie demanderesse. C'est logique. Le Venezuela a choisi un arbitre égyptien, un gars très solide, très connu, professeur d'université en droit international aux États-Unis, mais qui a aussi un bagage, une réputation d'aller plus du côté des pauvres pays qui doivent payer ces gros montants-là. Et après ça, les deux arbitres doivent s'entendre sur le troisième arbitre, où les deux sociétés, le Venezuela et nous, doivent s'entendre. Mais évidemment, on n'est pas capable de s'entendre, parce qu'à la fin, il faut bien comprendre que ça va être cette personne-là qui va décider du montant. Et comme on n'était pas capable de s'entendre, ça a duré pendant des mois, bien là, c'est la Banque mondiale qui désigne un arbitre. Et là, ils ont désigné un arbitre que personne connaissait, mais qui était sur la liste, un Espagnol, un peu plus jeune que les autres, probablement dans la cinquantaine, un gars avec une bonne réputation, mais qui était nouveau au système d'arbitrage. Alors là, j'étais à Paris, on voit les procédures, tout le monde débat un peu, mais c'est plus un débat sur comment est-ce qu'on va fonctionner, trouver des dates, la mise en situation, tout le monde accepte qu'on va fonctionner de telle façon et tout. Et c'est de voir. Et premièrement, deux choses. Alors, la première chose, c'est qu'on a réussi à s'entendre sur des dates qui étaient, évidemment, pour situer ça, on était en février 2010 et on s'est entendu qu'on allait siéger, l'arbitrage siégerait un an plus tard, en février 2011. Alors, c'est les délais à peu près qu'on regarde. Mais tout le monde avait son agenda, on a fait ça. Et l'autre chose, on s'est entendu aussi sur le fait que nous, on devait déposer notre mémoire à la fin mars. Mais on y était déjà prêt. Et en fait, c'était ça qui a fait bouger les choses. C'est que là, on avait travaillé pendant un an et demi. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces arbitres-là, c'est des juges. Mais c'est un problème financier. La question qui est posée aux trois arbitres, c'est quelle est la valeur présente nette au 16 juin 2008 qu'une transaction raisonnable entre un vendeur et un acheteur, quel aurait été le prix qui aurait bien reflété les profits futurs des 25 prochaines années? C'est ça la question. Et le problème, c'est que ces gars-là ne sont pas des économistes. Ce sont des très bons avocats en droit international, mais c'est vraiment un problème d'économie, de finance. Alors, c'est très déstabilisant pour eux. Et on avait préparé un très bon dossier. On a déposé le dossier. Et quelques semaines avant que le Venezuela doive répondre, là, le gouvernement du Venezuela m'a rappelé, m'a dit, là, on veut négocier. Là, ils ont vu qu'on avait une très bonne position, très défendable, et c'est là qu'on a négocié. J'ai fait passer le prix de 550 à 650. Et là, après ça, on a établi ça, je crois, au mois de juin ou juillet. Puis après ça, ça a été pendant trois mois, là, des revisions de contrats et tout que j'ai fini par signer au mois de septembre 2010.
Pour Louis Beauchemin, ce qu'il a vécu permet de mieux comprendre sur quoi repose le chavisme. Pour casser certaines idées reçues, il faut rappeler que Chavez a toujours été légalement élu, qu'il n'a jamais pris le pouvoir de force, mais que toute sa manière de gouverner était tournée vers un unique but, se faire réélire. Louis Beauchemin pense que son histoire en est l'exemple.
Le but de Chavez, son seul et unique but, et ça c'est quelque chose que j'ai appris de Chavez, c'est que tout ce qu'il faisait, c'était dans le but de s'assurer de son élection et de sa réélection comme président du Venezuela à perpétuité.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, logra su tercera reelección con el 54,42% de los votos.
Il y a des gens qui ont fait des enquêtes. On n'a jamais trouvé que Chávez s'était ouvert un compte de banque dans un paradis fiscal ou en Suisse, qui avait détourné des fonds du gouvernement. Lui, il pouvait vivre très bien en tant que président, hein, t'as tout ce que tu veux, et il savait qu'elle allait terminer soit mort par un assassinat dans un coup d'État ou d'une maladie, ce qui a été le cas. De remettre le Venezuela sur le droit chemin, il aurait perdu l'appui de tous ceux qui avaient voté pour lui. Nous, ce que Chavez avait dit après ça pendant 2-3 mois, c'est qu'il disait aux gens, « Moi, je vous ai promis pour les pauvres des maisons gratuites. » Tout le monde connaît quelqu'un qui a reçu une maison gratuite du gouvernement du Venezuela. Donc, ces gens-là se disent, ben, je ne peux pas arrêter de voter pour Chavez parce qu'un jour, ça va être mon tour. Mais après ça, il n'y a rien de concret qui est fait pour gérer l'industrie. Lui, là, une fois qu'on avait signé au mois d'août 2008, là, il en a parlé un petit peu, puis c'est tout. Là. Il y avait déjà passé à d'autres choses. Il avait déjà annoncé qu'il allait nationaliser autre chose. Il fallait toujours garder des bonnes nouvelles. Il fallait toujours sortir des nouvelles bonnes surprises pour la population en préparation des prochaines élections. Donc, dans les quartiers pauvres, des fois, ils donnent les vendredis après-midi, ils vont donner de la nourriture gratuite. Ils organisent des fêtes pour que les gens soient heureux. Puis, vous savez, c'est du pain puis des jeux. Là. On est comme de la Rome antique.
Mais lui, comment a-t-il vécu cette période à titre personnel? Comment a-t-il traversé cette sorte d'épreuve à laquelle il n'était pas préparé? Et quel regard cette expérience lui fait porter sur les destinées de ce pays?
On s'attache hein, à un pays, on s'attache à des employés, on s'attache à des gens. Et de se faire sortir comme ça par un décret du gouvernement, de se faire sortir. et de voir nos amis, entre autres au bureau et dans les usines, qui sont tristes, c'est très déchirant. C'est très déchirant. Puis d'ailleurs, même moi, au niveau personnel, je ne savais pas qu'est-ce qui allait m'arriver après. C'était pas prévu non plus là, dans la société que j'allais qu'on m'envoyait dans un pays qui allait se faire nationaliser, puis après ça, où est-ce qu'il allait m'envoyer? L'année 2009, là, je travaillais à temps plein, mais à reviser des contrats, à faire des calculs financiers, puis à rentrer dans les virgules, puis les chiffres, puis les dixièmes, puis les centièmes, puis ça m'excitait pas tellement là, d'aller au bureau le matin puis de faire ces trucs-là non plus. J'ai pas réalisé ce que j'aurais voulu réaliser, parce que l'année 2008, mis à part la nationalisation, on a quand même bien produit, bien vendu. On a réussi à motiver les équipes et on a fait des profits records. Se faire enlever un succès comme ça, c'était un gros, gros succès pour la boîte, sauf qu'on n'a jamais vu la couleur de cet argent-là, on se comprend. Heureusement, en 2010, on m'a proposé un job ailleurs, au Chili. Et je continuais en même temps à m'occuper des négociations au Venezuela. Et moi aussi, ça a été ça mon truc. Parce que l'année 2009, où je travaillais avec les avocats puis les financiers, monter les dossiers, comme je vous ai dit, c'était pas tellement excitant. Mais m'embarquer sur un autre défi, ça m'a aidé à tourner la page. Mais puis ça a été des très belles réalisations au Chili. J'ai passé 4 ans là, fantastique, ça s'est bien passé. Et c'est un pays aussi où je me suis beaucoup attaché et je suis retourné après, j'ai gardé des amis et tout. Mais on reste quand même triste pour le Venezuela parce que moi, je lis encore ce qui se passe dans les journaux. Ça va continuer à s'empirer avant de s'améliorer. Hein. J'ai pas de boule de cristal. Hein. Mais et c'est un pays qu'il faut savoir, si on remonte dans les années 60 ou 70, c'était le pays d'Amérique latine par capita le plus développé avec la meilleure économie. Aujourd'hui, sur la plupart des listings, des rankings internationaux, sur toutes sortes de critères, autant en investissement, en productivité, en qualité de vie, en durée de vie, c'est sur 150 ou 160 pays dans le monde, c'est toujours dans les 5 derniers, là. C'est rendu un des pires pays. Moi, je trouve ça très triste. Je trouve ça très, très triste. Le Venezuela, faut pas oublier, aujourd'hui, son infrastructure, autant les routes, les aéroports, les choses comme ça, sont en train de tomber en ruine, plus toute l'infrastructure industrielle aussi. Le Venezuela ne fabrique presque plus rien et doit tout importer. Mais c'est insoutenable, ça. C'est insoutenable. Alors, ça va être très, très dur. Et évidemment, même s'il y aurait un nouveau gouvernement, il y a des dettes incroyables qui vont taxer les Vénézuéliens pendant les 40-50 prochaines années.
Un peu de provocation avant de conclure. On pourrait déceler dans le discours de Louis Beauchemin une opposition farouche aux nationalisations. Alors on lui a demandé ce qu'il pensait de la grande vague de nationalisation mise en place au Québec dans les années 60, et notamment Hydro-Québec, devenu un fleuron de l'économie québécoise.
C'est la mise au service de toute la population du Québec des profits de son électricité qui est produite et consommée chez lui. C'est la mise au service de toute la population de l'électricité par l'Hydro-Québec, propriété du peuple, société publique en dehors de la politique partisane et qu'il faut garder s'administrant elle-même en dehors de la politique avec des Québécois jusqu'au sommet. Des Québécois qui, enfin, pour une fois, là, depuis le temps qu'on en parle, seraient vraiment les maîtres chez eux dans toutes les régions du Québec.
Comme quoi, ça a du bon cette politique, n'est-ce pas Louis?
Ça n'a pas été un succès dès le départ, mais ça a été très bien géré. Et surtout, ça a été géré, parce que pour avoir travaillé là, un des succès d'Hydro-Québec, c'est que toutes les décisions ont été prises pour le succès de la société, mais à long terme. Ce qui fait que les normes de qualité de construction, soit des lignes électriques, des barrages, côté entretien, tout a été fait d'un niveau de qualité très élevé et avec des planifications de durée de vie de 50 à 100 ans. Et il y a des programmes de maintenance préventive et des choses comme ça. J'essaie pas de vous vendre Hydro-Québec, mais ce que je veux dire, c'est que l'Hydro-Québec n'a pas été géré à tous les jours par le gouvernement pour des raisons électoralistes de faire ça. Ce que je vous dis, il y a évidemment des exceptions. Il y a quelques petites choses qui ont été faites où il y a eu de l'ingérence du gouvernement quelquefois, dont une il y a environ une quinzaine d'années qui est assez connue. Mais sinon, a été géré d'une façon indépendante par des professionnels, par des gens qui faisaient de la planification, de la construction. Et aujourd'hui, je crois qu'Hydro-Québec a environ 19 000 employés. Et ça reste le coût d'électricité le plus bas en Amérique du Nord, avec une énergie qui est propre à 99,5 ou 8 %, je ne sais plus trop le chiffre, et avec une perspective d'avenir qui est encore très belle. Alors ça, le problème, ce n'est pas la nationalisation, c'est comment c'est géré. Je vous donne un exemple. Une des richesses du Venezuela, c'est le cacao. Il y a environ 20 ans, le meilleur cacao au monde venait du Venezuela. Chavez a nationalisé ça. Bien, il n'y a personne qui est allé s'occuper des champs de cacaotiers. Bien, aujourd'hui, ils ne produisent plus de cacao. Les arbres sont morts, c'est fini. C'est tout.
Pour finir, on lui a posé une dernière question. Si vous pouviez revenir en arrière et faire passer un message à Hugo Chavez, vous lui diriez quoi?
Moi, ce que je lui dirais, c'est avec son pouvoir de communication, je trouve qu'il a pris la voie facile et qui a vraiment leurré les Vénézuéliens. À ce moment-là, il aurait pu, et le Venezuela, quand il est rentré au pouvoir autour des années 2000, il aurait pu orienter et motiver les gens et les faire travailler et créer des emplois, créer de la richesse en faisant plein de choses, parce qu'il faut savoir aussi que le Venezuela, géographiquement, à part le pétrole, a quand même d'autres richesses, côté climat, canne à sucre, autre chose, et est très bien situé. À ce moment-là, le Venezuela aurait, par exemple, produire plus pour exporter au Panama, en Colombie, au Brésil, qui n'était pas le Brésil d'aujourd'hui, pour faire plus de choses. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il a il avait quand même un pays qui avait un plein potentiel et qui l'a ruiné. Et aujourd'hui, il a ruiné la vie de la majorité des Vénézuéliens. Et ça, je trouve ça dommage et c'est de sa faute. Tandis qu'il aurait pu... L'histoire ne va pas garder une image ou une idée de Chavez comme quoi c'était quelqu'un qui a fait quelqu'un de grand pour son pays. Au contraire, je trouve qu'il a manqué sa chance de faire quelque chose de bien parce qu'il y avait dans ses outils, dans ce qu'on lui a donné, il aurait pu faire quelque chose, il aurait pu faire vraiment avancer le Venezuela à ce moment-là. Et je trouve ça dommage. C'est ce que je lui aurais dit.
Audio.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.